Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Escapade. Alors on est bien à l'écoute sur le 102.0, le 103.3, le 104.1 et le .org pour le reste du monde. Et bien aujourd'hui je vous propose un nouveau numéro d'Escapade et vous, et cette fois-ci on va aller du côté de la médiathèque Olympe de Gouges à Saint-Hippolyte-du-Fort, puisque en studio avec moi, Chloé Velay qui est responsable de la médiathèque et responsable de la lecture publique, et Denis Infante pour son premier roman édité, Rousse ou les beaux habitants de l'univers. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien installés ?
Impeccable.
Parfait.
Alors Chloé, nous allons démarrer avec vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire une présentation de la médiathèque ici à Saint-Hippolyte-du-Fort, en sachant qu'en plus il y a eu, il me semble, des aménagements, voire peut-être même des travaux cet été ?
Oui, tout à fait. Alors, la médiathèque intercommunale à Saint-Hippolyte-du-Fort, effectivement, a doublé sa surface quasiment, puisque le rez-de-chaussée a été aménagé en un espace jeunesse, donc 0-12 ans. Et à l'étage, on découvre maintenant un coin ado, 12 ans et plus, ainsi que l'ensemble des collections adultes voilà, qui sont... dans l'implantation du mobilier, ont été un peu aérés, mais qui restent inchangés. Voilà.
Alors, on aura l'occasion d'entendre parler de la médiathèque sur les ondes de Radio Escapade, puisqu'on a le projet de venir faire un reportage sur vous.
Avec grand plaisir.
Voilà, on pourra rentrer plus en détail.
Entre voisins.
C'est ça. Alors, à la médiathèque, vous avez aussi un prix littéraire qui s'appelle « Le livre au cœur ». Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire depuis quand est-ce que ce prix littéraire existe et pourquoi est-ce qu'il a été mis en place ?
Tout à fait. Donc, c'est un prix littéraire qui en est à sa 9e édition cette année. Donc, l'an prochain, on atteindra la 10e édition. Et j'espère que pour ce faire, on aura peut-être un événement avec un peu plus d'ampleur. Donc, il a été créé dans l'idée sur ce réseau de bibliothèques, puisqu'il y a 18 bibliothèques dans le Piémont-Cévenol. De fédérer, d'échanger autour du livre, de créer du lien autour du livre, de se faire plaisir, de se rencontrer. Et donc, c'est un prix qui porte son nom, le prix du livre au cœur. C'est le prix du coup de cœur, quoi, vraiment.
Et c'est un jury d'habitants ?
C'est un jury des bénévoles des bibliothèques, beaucoup, ainsi que des adhérents des bibliothèques aussi. Voilà. Donc tout le monde peut faire partie du jury s'il le souhaite et reçoit une liste d'ouvrages à lire, qu'il s'engage à lire bien sûr en entier. Ensuite, chaque membre vote et voilà.
Et donc après, vous avez un vrai fonctionnement.
Voilà.
Et donc, le lauréat donc 2024, qui, si je ne me trompe pas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le prix, c'était en juin ?
Oui, tout
en
à
juin.
Fait. Oui, oui.
Je l'ai fait vraiment de mémoire, ça.
On a voté en juin, oui.
En juin, donc le lauréat 2024, eh bien, c'est Rousse ou les beaux habitants de l'univers de Denis Infante. Rebonjour Denis.
Bonjour. Je peux dire que ça fait extrêmement plaisir d'être lauréat d'un prix de ce genre, où c'est justement les lecteurs ou les libraires ou les bibliothécaires qui votent. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. J'ai été lauréat d'un prix dans une librairie à Haute-Rive, par exemple.
Oui.
Voilà. Je suis sélectionné à Brive aussi, c'est un prix des lecteurs. Le prix Anne Ténès, qui est aussi un prix. Là, c'est un prix des collégiens qui votent. Ça, c'est. Je vais d'ailleurs aller les voir. Ça va être quelque chose. Voilà. Ça, c'est très, très. C'est mieux que. Enfin, c'est mieux. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est plus intéressant, plus. Ça touche plus qu'un prix remis par des journalistes ou des critiques. Voilà. Ils sont toujours un peu. On peut imaginer, influencer, etc. Voilà.
Alors, si je peux me permettre, hein, vu les noms que vous avez cités, vous parlez beaucoup d'endroits en milieu rural que ce soit Haute-Rive peut-être ou pas forcément.
Non, Brive, c'est pas.
Oui, Brive-la-Gaillarde.
Oui, Brive-la-Gaillarde. Non, Antenès, c'est un prix qui est le nom d'une documentaliste qui a décédé et donc qui était évidemment très, très portée sur le texte. Et là, c'est des collégiens dans des. Oui, c'est des petites villes, hein, c'est des petites villes dans ce coin-là. C'est le Haut-Quercy, c'est pas des gros villages, enfin des grosses villes, mais non, pas nécessairement.
Alors, Denis, avant de parler de Rousse, cette renarde, j'aimerais bien qu'on fasse une petite partie sur votre parcours, puisque donc vous avez surtout travaillé en théâtre, hein, que ce soit de la mise en scène, de la technique, et puis vous allez un petit peu nous raconter. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture et à ce premier roman édité ? Est-ce que vous avez toujours écrit ?
Oui, je crois que j'ai à peu près toujours écrit. Le problème, c'est que j'avais du mal à écrire à la main. Je suis dyslexique, j'ai vraiment du mal à écrire à la main. Et ce qui m'a sauvé, c'est les ordinateurs. Le premier ordinateur qui est apparu il y a 45 ans, ce monsieur Atari, il m'a sauvé, pas la vie, mais il a sauvé mon écriture. Et à partir de là, je me suis mis à écrire directement sur ordinateur et ça a été beaucoup plus facile pour moi.
Et votre travail dans le théâtre, est-ce qu'il a nourri l'écriture ou est-ce que c'est l'écriture qui a nourri le théâtre ou est-ce que c'est les deux ?
Je pense que c'est un peu une synergie entre les deux. À la fois le théâtre lui-même en tant que qu'art et en même temps les rapports humains qu'on peut avoir dans le théâtre. J'ai fait aussi du cinéma, mais à moindre échelle. Les rapports humains qu'on peut avoir dans tournée, etc. Enfin, les répétitions, ça, oui, j'ai fait du cirque aussi. Ça, c'est très enrichissant. Mais il n'y a pas directement de lien. Non.
L'écriture, finalement, bon, que ce soit sur ordinateur ou à la main, vous a toujours accompagné au final.
Oui.
Parce que c'est important. Là, on parle de Rousse, hein, qui est donc votre premier roman édité, à compte d'éditeur d'ailleurs chez la maison d'édition Emmins.
Tristram.
Tristram, voilà, qui est à Auch, hein, dans le Gers. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, vous avez donc plusieurs livres hein, qui existent déjà depuis des années. Tout à l'heure, vous me disiez à peu près 13.
Ouais,
Qu'est-ce qui fait que Rousse a été édité ?
Alors là, c'est une énigme pour moi et pour mes éditeurs aussi, peut-être d'ailleurs. Hein. Je l'avais envoyé en gros. Ben justement, c'est rigolo parce que ce matin, je leur ai envoyé la liste. Ils m'ont demandé la liste à une quarantaine, comme j'ai fait à chaque fois. Hein, à chaque fois. Pratiquement sur les 12 ou 13 bouquins que j'ai écrits, j'ai dû envoyer une dizaine. Je l'envoie comme ça, par la poste ou maintenant plus facilement par courriel. Et voilà, et j'ai envoyé, Rouge, je l'ai envoyé à 40 éditeurs. Et pourquoi eux ? Je ne sais pas. Ils sont très ravis d'ailleurs, parce que c'est quand même un tirage qui devient conséquent. Et puis de tas de choses qui tournent autour. Voilà. Il n'y a pas eu de démarche. On dit toujours il faut regarder les catalogues. Je pense que si j'avais regardé le catalogue des éditions Tristram, jamais j'aurais osé leur envoyer parce que c'est des éditeurs pointus. Enfin, ils éditent peu, ils éditent 4, 5 romans ou textes par an et des choses très particulières.
Voilà. Comme quoi, hein, des fois, voilà. Il ne faut pas trop chercher, s'informer et rester peut-être dans...
Pas s'auto-censurer aussi, peut-être.
Voilà.
Oui, c'est ça un peu. Ouais.
Et je pense qu'envoyer un roman par la poste, c'est pas mal aussi de nos jours.
Hein. Oui, l'intérêt du courriel, c'est que ça coûte moins cher.
Oui. Alors, Denis, je voulais aussi partir sur donc, cette première phrase hein, qu'on a en préface, on peut dire en préface.
En exergue, pas, je crois.
En exergue, en plutôt. Exergue. Qui est donc de Giono. Hein, donc je vais la lire et je vais l'ouvrir. Hein. Donc, dans tous les livres actuels, on donne, à mon avis, une trop grande place aux êtres mesquins et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers. Donc, le chant du monde, Jean Giono. Est-ce que cette phrase, elle est arrivée naturellement ? Pourquoi Giono ?
D'abord parce que je crois que j'ai dû lire à peu près tout ce qu'a écrit Giono et relu, parce que je suis un gros relecteur. Et ça ne suffit pas de lire, je relis, histoire de bien peser sur mon esprit. Et oui, j'adore Giono, à la fois par ses histoires et puis par ses ambiances, quoi, qui sont pour le coup souvent... dans la campagne, mais qui ne sont pas aussi verdoyantes et chatoyantes et peuplées de papillons et de fleurs bleues qu'on peut l'imaginer. C'est très sombre, Giono. un de ses livres les plus sombres, peut-être, c'est Un roi sans divertissement, où c'est carrément l'une des, peut-être les deux premières apparitions dans la littérature française d'un serial killer. Donc, pour vous dire que c'est assez sombre. Voilà, et j'adore Giono, son style. Il y a une force d'écriture qui m'a toujours passionné. Mais ce livre n'en est pas directement inspiré, bien sûr.
Et est-ce que ces beaux habitants de l'univers, c'est quelque chose qui existe dans votre écriture ? Est-ce que ce sont est-ce que les animaux, c'est toujours présent ?
Il y a souvent des animaux, mais ça peut être des chiens, des chats. Je ne sais plus quel auteur américain disait un livre où il n'y a pas de chien ne peut pas être un bon livre. C'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, j'ai toujours des chiens, des chats, des sortes de choses. Et j'adore le rapport, vraiment le rapport, le dialogue presque qu'on peut avoir avec les quatre pattes.
Et comment on arrive à se mettre justement à cette hauteur des quatre pattes pour écrire ?
Je pense que ma façon d'écrire, c'est très proche justement de la mise en scène, dans la mesure où on cherche à créer et à être un personnage. J'ai écrit souvent, tout le temps pratiquement, à la première personne. Ça peut être une femme, un homme, un vieux, une jeune, un enfant. L'idée, c'est ça, c'est de se mettre vraiment dans, comme un acteur se met dans la peau d'un personnage ou essaye en tout cas de s'en imprégner. C'est beaucoup comme ça que je fonctionne. Donc pourquoi pas un renard ? Il m'est arrivé d'écrire avec des personnages qui étaient des chiens, donc des chats, un ours aussi, j'avoue, dois l'avouer. C'est l'une des rares tentatives vers le théâtre. Parce que si curieux que ça puisse paraître, je lis très peu de théâtre, sauf quand il faut que je travaille dessus. Et d'en écrire, j'ai jamais réussi, sauf ce texte qui s'appelle le songe d'une nuit d'hiver. Voilà. Et il y a un ours. Et comme on est au théâtre, il parle. Bon, ça, c'est un détail. Voilà.
Il y a aussi dans Rousse ours.
Il y a une ours et d'autres, oui. D'autres animaux, d'autres quatre pattes, ou pas d'ailleurs, d'autres beaux habitants en tout cas.
Oui, alors justement, on va commencer à rentrer dans votre histoire. Hein, donc dans les premières pages, on plonge tout de suite dans un monde où il n'y a plus d'hommes et surtout tout de suite la problématique de l'eau. Donc voilà, on est dans un monde où il n'y a plus d'eau. Il y a
très grave sécheresse. Ouais.
Voilà, et donc on a ce premier personnage, hein, Rousse, hein, donc la renarde. Est-ce que dès le début, vous aviez envie de mettre la lectrice ou le lecteur un peu dans un monde qui est peut-être pas si loin d'une autre aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu ces dernières années, avec le Covid, voilà, les crises.
Ah oui, c'est sûr que ça m'a influencé. C'était même plus qu'une influence, c'était une volonté de décrire ce monde. Et en tout cas, de décrire un monde sans humains, il aurait pu se passer peut-être avant l'apparition des hommes. Mais comme je suis très mauvais en Tyrannosaure Rex et compagnie, j'ai préféré en rester au renard.
Donc pour vous, tout de suite, c'était sûr qu'il n'y aurait plus, pas d'homme, en fait.
Ah oui, il me semble. Je dis il me semble parce que je n'ai pas de plan. Ça dévie souvent de ce que je voulais faire au départ. Et les personnages eux-mêmes, ils influent sur l'histoire. Non, tout de suite, il n'y avait pas d'homme, et pas d'humain, en tout cas.
Vous vouliez décrire la fin de l'humanité ?
Pas nécessairement au départ. Et puis c'est venu parce que, comme vous disiez, il y a quand même l'influence de ce qu'on vit... dans lequel on est en train de s'enfoncer de plus en plus.
Merci, Denis. Alors, tout à l'heure, en préparant l'émission, j'ai évoqué le fait d'avoir deux moments de lecture de Rousse. Donc, j'ai choisi un moment de lecture qui est le chapitre, peut-être ?
Oui, c'est des chapitres. Oui.
Lisière. Alors, j'avais dit tout à l'heure, j'avais proposé à Chloé, est-ce que vous voulez aussi lire le moment lisière ?
Oh, peut-être qu'on peut alterner, c'est pas mal. Ou comme vous voulez. Sinon, c'est à quelle page ?
Alors, lisière, c'est, je pense, c'est au tout début. En fait, c'est le moment où Rousse décide justement de démarrer un petit peu son voyage initiatique, si je peux me permettre, mais on y reviendra justement après.
Je me lance alors ?
Oui.
Très bien. Lisière. Premiers pas furent faciles. Rousse connaissait et reconnaissait lieu mille fois parcouru. C'était encore son territoire de chasse et jeu. Ici, elle avait sauté au-dessus de troncs couchés par anciennes tempêtes, bond prodigieux, pendant lequel, court instant, elle s'était sentie oiseau. Là, elle avait dormi sur tapis de feuilles mortes accumulées sous épais fourrés, agréable litière. Douce couche abritée d'indésirables. Au bord de cette mare presque entièrement asséchée à présent, elle avait pêché grasse grenouille, aussi verte et luisante que feuille à peine éclose. Sur cette crête, elle avait couru longtemps pour échapper à mâle importun qui se montra incapable de soutenir son allure. Rousse, tandis qu'elle progressait à travers arbres de bois de chêne, s'éloignant des lieux connus d'elle depuis toujours, sentait que cette marche était bien différente de toute autre marche qu'elle avait pu entreprendre au cours de sa jeune existence. Elle s'en défendait, voulait garder cœur léger, esprit joyeux. Pourtant, Rousse sentait monter en elle étrange mélancolie, sentiment fugace et douloureux de perte, comme si, sans qu'elle en sache cause véritable, tout retour allait lui être impossible. Comme si chaque trace qu'elle inscrivait sur terre si longtemps sienne, une fois effacée par jour et vent, plus rien n'allait rester d'elle dans sous-bois qu'elle aimait tant. Mais Rousse était avant tout jeune renarde joyeuse et optimiste. Et secouant museau comme si elle voulait se débarrasser de quelques moucherons, elle alla, obstinée, forçant allure. Bientôt, elle parvint aux abords de rivières qui marquaient limite du bois de chêne, limite des terres qu'elle connaissait. Celle-ci avait fait son lit dans une gorge profondément encaissée qui semblait entaillée à même roche dure par terrifiants coups de griffes de créatures d'une taille inimaginable, et que pour cela, on appelait depuis toujours « vallon du tigre », bien que personne n'ait vu tigre, panthère, jaguar en cet endroit du monde depuis bien longtemps. Peu s'en souvenaient, aucun ne les avait connus. Rousse dévala pente raide, bondissant de surplomb en saillie, de touffes d'herbe en pierrier, glapissant du pur bonheur de se sentir agile et souple, invulnérable, langue rose dardée entre mâchoire et regard affûté volant de point d'appui à moindre saillie. Parvenue au fond du vallon, Rousse déchanta très vite. Ses têtus, rythme saccadé des chutes et frémissements des flots, bruissement sans fin des eaux vives aux reflets de feuillage. Rivière de Chêne ne coulait plus, rivière de Chêne avait tari, et Rocher, qui dans souvenir de Rousse luissait sous courant d'eau fraîche et claire, avait aujourd'hui allure d'os blanchi d'anciens squelettes. Bref instant, Rousse crut voir vertèbres disjointes de tigres fabuleux qui avaient donné nom à Vallon. Elle sentit peur et frisson hérisser sa propre échine, tandis que ses oreilles pointues s'aplatissaient sur son crâne. Et puis, aussi vite que lui était apparue, sinistre vision s'évanouit. Rousse dut se contenter d'eau verte et sentant fortement boue et vase croupissante et qui n'étant chaque peu brûlante soif. Elle pensa se reposer un moment avant de reprendre route, mais chaleur étouffante, rivière asséchée et ombre ténue de sinistre vision planaient encore dans air immobile l'en dissuadèrent. Et franchissant lit de rivière de chêne morte, grimpant tout muscle tendu par violent effort autre versant de vallon du tigre, jeune renarde franchit ainsi lisière des terres d'elle connue.
Juste une remarque que vous pourrez couper, on dit bois de chêne. non, mais je rigole. Ben, je rigole pas, ça vient du Seigneur des Anneaux et je crois qu'on prononce en anglais wood of shit, un truc comme ça. Et c'est okay. Bois de chêne.
Ah, mais c'est une belle référence, le Seigneur des Anneaux.
Ben oui, il est là.
Ce serait dommage de le couper, ça.
Il est là. Il est dans ce livre.
Ah oui, on garde tout, on garde tout, nous.
Probablement plus le Seigneur des Anneaux que Giono. Même si, évidemment, il apparaît nulle part, mais il y a quelque chose. Enfin, pour moi,
je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux.
C'est hors de question de couper, surtout qu'on a une info quand même hyper importante. Mais merci beaucoup, Chloé, pour la lecture.
Avec
merci.
Grand plaisir.
Denis, est-ce que vous voulez réagir sur la lecture ?
Alors, ça fait quelques fois maintenant, évidemment, que j'entends des lectures de différentes façons, par différents... Et à chaque fois, c'est autre chose. Encore, c'est amusant parce que à Mont-de-Marsan, samedi, ce passage a été lu par un groupe de rap qui sont deux. Il y a un musicien qui jouait de la flûte et des claviers et le rappeur. Et, C'était la première fois, parce qu'on n'arrête pas de dire que ce livre, il y a une profondeur philosophique, etc., que je ne vois pas. Et c'était la première fois que je l'ai vu dans cette lecture, à cause peut-être tout simplement de la puissance de sa voix, je ne sais pas. Et c'est... Au début, c'était un peu impressionnant. Maintenant, je commence à m'y faire, j'en prends beaucoup plus de plaisir. Mais c'est ça, à chaque fois, un plaisir d'entendre lire quelqu'un.
Oui, parce que je n'ai pas, j'ai pas dit que votre roman est sorti en janvier 2024. Mmh. Voilà, donc là, le prix, effectivement, de la communauté de communes Piémont-Cévenol arrive en juin. Vous arrivez dans les studios tout fin septembre. Donc voilà, vous avez déjà eu énormément d'articles médiatiques,
oui,
de radio, de rendez-vous.
Des rencontres, des lectures, donc, dont à Oulgat cet été... Dominique Pinon, je ne sais pas si vous voyez ce comédien, on a lu une heure entière du livre.
Ah oui.
Et il a lu, alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire. On était avec Rousse. Là, il n'y avait plus de philosophie, il n'y avait plus de... c'était vraiment, on était dans ce parcours et
en
c'était
immersion.
Extraordinaire. Oui, complètement. Ah oui.
Alors justement, moi, j'ai choisi ce passage-là parce que je trouve qu'on est déjà dans la découverte de qui est Rousse,
oui,
donc
oui,
cette renarde.
Sûr.
Et puis, on est dans vraiment le début de son voyage qui va démarrer. Est-ce que vous voulez un petit peu nous expliquer, est-ce que c'est réellement un voyage initiatique que vous avez eu envie d'écrire, ou est-ce que c'est nous, lecteurs et lectrices qui avons cette lecture-là, en fait?
Alors déjà, chaque lectrice, chaque lecteur fait ce qu'il veut de ce livre, y compris pour caler une armoire, c'est très pratique, parce qu'il est assez fin. Et non, il n'y avait pas de projet, sinon d'écrire un roman, et de suivre cette Rousse à travers ses aventures, ses mésaventures. Après, le reste, c'est parce que c'est de la littérature et que ça se nourrit au fur et à mesure. Et on crée des univers et parfois on découvre des choses, on découvre des sensations, on découvre des phénomènes philosophiques sans a priori, sans les chercher au départ. Je crois que c'est ça la force de la littérature, c'est quand ça dépasse l'auteur, en fait. Et
d'accord.
C'est un peu ce qui est arrivé avec ce roman. Ça me dépasse complètement.
Merci, Denis. On va écouter le premier titre musical que vous avez choisi. Donc, on part avec Bachung.
L'adar venimeux. La zoc, le trompeur, plus loin. Une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre, plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os. Et puis l'inévitable clairière, amie vaste, accueillante. Les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque de doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus, 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 Vénus. L'adar venimeux, la socle trompeur, plus loin. Une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongera les os. Et puis, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée. Toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus, 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 Vénus. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée. Toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile, première à éclairer la nuit. Vénus, 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 Vénus.
Vénus de Bachung dans l'émission Escapadez-vous, donc qui vous présente un petit... On a fait un petit zoom sur la médiathèque Olympe de Gouges de Saint-Hippolyte-du-Fort et on est toujours avec Denis Infante pour son premier roman édité Rousse. Donc la maison d'édition Tristam hein, à Auch dans le Gers. Alors Denis, j'aime bien demander à mes invités... un petit peu le pourquoi de ce choix musical, pourquoi Bachung ?
Alors d'abord, vous me faites un beau cadeau, je ne connaissais pas cette version, parce que d'abord, j'adore Bachung, qui étonnamment n'est pas l'auteur de ces chansons. C'est quelque chose qui est extraordinaire, il a toujours écrit à plusieurs, ça, je ne comprends même pas comment il a fait. Et celle-là particulièrement, elle est de Gérard Manset, qui est aussi un de mes grands... de mes grandes influences. Peut-être qu'il y a plus de Vénus et de Gérard Manset dans ce texte que de Giono, c'est possible. j'adore Bachung, sa façon de chanter et ses textes. Quoi.
Ah, j'adore aussi.
Ils sont magnifiques.
Donc merci pour ce choix. Quand j'ai vu Bachung, j'ai fait « Oh, super !» Hein, ça vous intéresse, auditrices et auditeurs. Alors Denis, on va continuer sur le roman, hein, bien sûr. J'avais envie de vous demander comment est-ce que vous pourriez résumer un peu l'histoire que vous donnez à lire, en fait.
Alors, très simplement, c'est la vie d'une renarde depuis peut-être pas sa tendre enfance, mais son adolescence, jusqu'à pratiquement sa fin. Voilà, c'est tout. C'est la vie d'une renarde. Comme dans un roman, il y a la vie de Madame Bovary, pour donner un exemple, il me vient à l'esprit ou autre, voilà. C'est tout simplement ça, c'est la vie d'une renarde.
Et en fait, c'est un peu pour ça que tout à l'heure, juste avant la pause musicale, vous disiez oui, il y a des lecteurs ou des journalistes ou peu importe qui ont vu de la philosophie. Mais peut-être parce que justement, vous êtes avec un personnage qui est, comme vous venez de le dire, de l'adolescence jusqu'à...
Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est une vie. C'est une vie particulière parce que, bien sûr, c'est une renarde et puis parce qu'elle vit dans un monde particulier qui est très abîmé, notamment. Mmh. Et donc, on disait où il n'y a pas d'humain.
Voilà. Alors, justement, on va arriver sur ce monde. Pourquoi est-ce que vous aviez envie aussi de faire lire un petit peu ce monde où il n'y a plus d'humain, où il n'y a quasi plus d'eau? Et il y a quand même d'autres animaux, hein.
Ah bah
il faut quand même qu'on le dise.
Oui,
hein,
oui, il n'y a pas que des renards. Il y a,
voilà.
D'ailleurs, d'autres renards, mais il y a surtout cette renarde. Il y a une ours qui s'appelle Brune. Il y a un corbeau qui est très important,
oui.
Qui s'appelle Noirciel, qui est un personnage un petit peu à part des autres. Il y a des écureuils, il y a des loups. Et voilà,
des sangliers.
Des sangliers, très importants, les sangliers. Je soupçonne mes éditeurs d'avoir été charmés avant tout par Major Durdan et Cœur Fier.
On les comprend.
Mais il n'y a plus de poissons.
Si, il y a des poissons, mais ils vont... Oui, il y a des poissons, mais par moments, il y a des catastrophes qui arrivent. Et par contre, il y a d'autres animaux. Il y a deux espèces animales qui sont pour moi... Peut-être qu'elles sortent d'un laboratoire, je ne sais pas, elles ne font pas partie des vivants. Parce qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'animaux dans ce texte. Il n'y a que des vivants mobiles et des vivants immobiles. Ça, c'est très important.
Et Renarde est une vivante, mobile, et c'est pour ça qu'elle part.
Voilà, qu'elle part. Et il y a des arbres ou des plantes qui sont immobiles. Ouais.
Est-ce que vous, en tant que lecteur, Denis Infante, vous lisez beaucoup de science-fiction ?
J'en ai lu, j'en lis moins. Mais par exemple, dernièrement, grâce à mon fils, qui lui, il dit que ça, on s'engueule souvent parce qu'il dit que de la science-fiction, et ça m'énerve. Il m'a fait découvrir que je connaissais de nom Ursula Le Guin, qui est une autrice, une auteure, mais c'est extraordinaire. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas eu le prix Nobel, par exemple. Alors, c'est une science-fiction très particulière, mais c'est de la science-fiction. Voilà, non, je lis. J'ai lu. Y a par exemple Demain les chiens, qui a probablement de Suidma, qui a influencé ce texte.
Oui, et qui avait fait un carton, hein, si je peux me permettre, Demain les chiens.
Demain les chiens, c'est un livre qui est paru dans les années 60, je crois, qui est très étrange. Bon, on ne va pas en parler maintenant.
Oui, oui.
Mais c'est un monde aussi où il y a beaucoup de chiens qui sont importants.
Mais c'est intéressant de savoir aussi un petit peu vos lectures, je trouve.
Alors, je suis un lecteur très éclectique. Hein. Moi, par exemple, c'est très étonnant parce que pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à, je ne sais pas, peut-être ma 30e année ou peut-être un peu plus, je ne pouvais pas rentrer dans une librairie ni dans une bibliothèque. Je ne pouvais pas. C'était au-dessus de mes moyens. Donc, je piquais chez les copains ou j'achetais des fois dans les puces, des choses comme ça. Mais bon, maintenant, je suis guéri. Même, il faudrait peut-être m'interdire, du coup, de rentrer dans les librairies. Ça, c'est possible.
J'espère aussi qu'on a, du côté des bibliothèques et des librairies, réussi à être plus
ouvert
vivant,
au monde.
Plus inclusif, plus ouvert au monde. Je pense qu'il y a quand même eu peut-être des évolutions aussi du côté de la profession, je l'espère.
Je regrette, par exemple, de ne plus avoir accès, parce que j'ai déménagé donc, à la librairie de Quissac.
Ah oui.
J'ai été client, on va dire client. Pourquoi pas employer ce terme? J'ai été client.
À la bibliothèque
Alors, en plus, je confonds librairie.
Librairie.
Voilà. À la bibliothèque de Quissac pendant 4, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas exactement. Donc maintenant, je n'ai plus de bibliothèque et je n'ai plus de librairie non plus. Parce que la seule librairie qui est à l'aise, je ne m'entends pas. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus. Enfin, le rapport à la librairie est un peu complexe pour moi et aux livres en général. Sinon, je lis vraiment de tout, des classiques, j'ai lu Salammbô dernièrement pour vous donner une idée, des modernes, des étrangers, beaucoup de littérature anglo-saxonne par exemple. Mais vraiment de tout.
Je rebondis sur ce que vous disiez. Les bénévoles de la bibliothèque de Quissac ainsi que les bénévoles de la bibliothèque de Corconne avaient les deux bibliothèques avaient eu un coup de cœur pour votre œuvre et je pense que les bénévoles de la bibliothèque de Quissac vous saluent.
Oui, et ils ont failli en venir
main. Avec une grande affection. Non, on était
Marie-Rose,
très contents que votre ouvrage soit porté comme ça, voilà, par
je salue
personnes.
Ici Marie-Rose.
Oui, tout à fait. Elle.
Merci. Je voulais en revenir aussi à... Peut-être que je bloque un peu là-dessus, mais à ce monde-là... où il n'y a plus d'hommes, où l'humanité a disparu. D'ailleurs, les hommes, vous avez trouvé une manière de les appeler, ce sont les faces plates. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu peut-être sur cette partie-là ?
Alors, les faces plates, d'abord, la Rousse ne découvre que des squelettes. Et il s'avère qu'effectivement, à l'inverse de la plupart des animaux, surtout des mammifères qui ont un museau, nous avons une face plate. Et d'autant plus quand nous sommes... Le plus tard possible, je nous le souhaite à tous ici présents et aux auditeurs, que nous sommes à l'état de squelette, nous sommes encore plus face plate, puisque le nez est un cartilage et disparaît. Voilà pourquoi ils s'appellent les face plates.
Ok.
Et elle, elle les découvre que sous cet aspect-là, et elle ne sait vraiment pas ce que c'est, bien évidemment.
C'est un caractère commun à notre espèce.
Oui, c'est tout à fait.
Alors, j'avais proposé un deuxième temps de lecture. Alors, cette fois-ci, Denis, c'est vous qui avez choisi. Qu'est-ce qu'on va entendre ?
Alors, moi, je vous propose page 113, oui, c'est ça, Brune, Ombre et Cœur fier. Je n'en dis pas plus.
Chloé, je vous laisse, c'est bien d'alterner.
Oui,
je vous laisse lire.
Allez, d'accord, okay, très bien.
Si ça vous fait plaisir. Hein.
Avec grand plaisir. Brune, ombre, cœur fier, boule grise venue de mon ventre et pendue à mes mamelles, boule chaude nourrie de mon lait, boule de sensations qui font battre mon cœur. Nous avons trouvé profond terrier de clans blaireaux creusé entre racines de jeunes rouges flammes. Terrier très spacieux, Nous ne dérangeons pas. Blaireau nous accepte. Père et mère Blaireau connaissent anciens usages. Sagesse et partage. Feu chasse et dépose proie encore chaude devant entrée du terrier pour que je fabrique rouge sang et blanc lait, pour que grossisse et grandisse magnifique portée enfouie dans ma fourrure. À présent, plus de marche vers aval, plus de découverte du monde. Monde est tout entier au fond de ce doux et protecteur abri de terre entre rouges racines qu'ingénieux et accueillants blaireaux creusèrent de leurs fortes griffes. Monde est tout entier dans jeune créature aux yeux encore clos, à bonne odeur vivante. Renardeau que grand et profond mystère déposa dans doux et protecteur abri de mon ventre. Nous sommes restés, feu et moi, et tendre Renardeau, sur ce territoire qui est territoire de feu depuis toujours, qui est blanche falaise. À peu des distances de grands fleuves. Ici, Crocodile et Kraken ne viennent pas, ne peuvent franchir vertigineuses cataractes en amont, et au soir, nombreux vivants viennent boire sur blanche berge. J'ai vu vivants énormes, longues dents pareilles à cornes de buffle, grandes oreilles, longs nez se tordant en tous sens, peau nue comme argile craquelée. Créatures grises gigantesques s'ébrouant dans courants de grands fleuves, eau jaillissant de leurs longs et souples nez, comme averses. Créatures paisibles, mangeuses d'herbes et feuillages qu'elles cueillent de leur nez. Ce sont Alifant. Je voudrais connaître Alifant, mais n'ose pas approcher. Renardeau grandissent et croissent. Renardeau change peu à peu de couleur, deviennent roux comme père et mère. Renardeau tête, dorment, jouent, bataillent et chassent, et prennent rousse pour colline à gravir, proie à mordiller. Et tête encore et maltraite mamelle toujours gonflée, endolorie. Jour passe. À présent, brune, ombre, cœur fier, mange petite proie qu'apporte feu. Dents minuscules déchirent muscles et tendons, rouge langue, lape rouge sang. Feu n'approche pas, feu nourrit, protège mais n'approche pas, telle est coutume renarde. Mais déjà, Renardeau veulent explorer vaste monde. Renardeau chasse véloce escargot et dangereuse pomme pourrie. Brune et cœur fier apprennent vite, traque et course, ombre plus lent, moins agile et si tendre. Renardeau court en tous sens, n'obéissent pas. J'attrape chacun par fragile cou et les ramène au fond du terrier. Épuisés, ils s'endorment. Je lèche leur fourrure, douce comme miel. Je sens leurs odeurs comme fleurs de tilleul, comme tiède terre humide. Je sens mon cœur battre. Comment ne pas sentir forte joie, bouleversante joie, d'avoir donné forme à tant de grâce, donné vie à tant de vie? Je comprends, ami ours brune, je comprends douleur de perte plus violente que noir mort. Je voudrais que ami ours soit là. Peut-être sait-elle comment ne pas trembler quand enfant s'éloigne trop, quand enfant saute au rocher, renifle baie poison, quand au loin hurle prédateur affamé, quand au ciel tourne lentement aigle à vue perçante à bec acéré. Noir ciel qui est maître, noir ciel qui sait, dit notre existence fragile et brève comme jour, mes forces de vie dures et solides comme temps. Je chasse. Je danse enfants qui grandissent. Je danse enfants qui m'échappent. Mamelles se tarissent et Renardeau toujours affamés. Feu chasse du matin au soir. Feu apporte nourriture. Feu maigrit, mais admire vorace Renardeau qui apprennent art de chasse. Chaleur augmente. Brume souvent s'élève de grands fleuves. Voici saison de courte nuit. Voici tant de séparation. Brune part, cœur fier part, ombre hésite, traîne alentour, comme s'il voulait rester Renardeau, puis ombre disparaît. C'est fin de mère Renarde, et mon cœur saigne.
Merci Chloé. Merci. Alors, pourquoi ce choix, Denis ?
De la lecture ?
Oui.
Peut-être parce que je suis enferronné de femmes, et donc je me suis dit pourquoi pas ce passage où cette renarde qui a toujours refusé les renards, qui a toujours refusé de se faire saillir, comme on dit dans le métier, l'a accepté parce que c'était le moment de le faire, et donc elle a une portée, Et voilà, et elle est à la fois extraordinairement heureuse de ces trois Renardo. Je ne sais pas comment on dit pour le féminin de Renardo. Renardode, peut-être, je ne sais pas. Et puis, évidemment, il y a la séparation. Et en tant que père, je suppose qu'en tant que mère, on sait ce que c'est que la séparation. C'est un moment magnifique parce que, voilà, advienne que pourra et aller avec Jacques Taest, et en même temps, bah, il y a une certaine souffrance. Ça, c'est évident.
La fin d'une page de vie.
Oui, tout à fait.
Mais c'était intéressant, entre la première lecture où, au tout début, on a justement Rousse.
Le départ. Hein.
Son élan, voilà. Son élan magique de la jeunesse, où elle s'enfuit. Ouais.
C'est ça, c'est la vie d'une renarde. C'est exactement la jeunesse, l'âge adulte et puis la vieillesse, bien sûr.
Avec un fond de philosophie.
oui, tout à fait. Il y a de la philosophie. Il y a même des sentences, j'appelle ça des sentences, que je mets notamment dans la voix de Noir Ciel ou autre. Ouais.
Denis, je voulais aussi vous demander, alors votre écriture, elle se passe comment ? Vous devez être à un bureau avec votre ordinateur,
oui,
en silence, en musique. Comment, voilà, ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça se passe chez vous ?
Alors déjà, pendant longtemps, j'avais du mal à écrire quand il y avait quelqu'un dans la maison. Par chance, les enfants allaient à l'école et par chance, ma compagne aussi, puisqu'elle était prof des écoles. Et par exemple, je n'écrivais pas le mercredi parce que les enfants étaient là. Donc voilà, et non, sinon, c'est, j'appelle ça un phénomène d'imprégnation, c'est-à-dire qu'on est dans le texte, on est dans cet univers, quoi. Et c'est pour ça qu'une fois que le mot fin est posé, après multiples relectures, bien sûr, je touche plus, c'est fait, c'est fin. Le monde est là, je ne suis pas un démiurge, ou alors je suis démiurge pendant la construction, après il ne m'appartient plus le texte. Et après, c'est le travail des éditeurs quand il y a des éditeurs.
Là, c'est le cas.
C'est le cas, bien sûr. Je compte d'ailleurs, je répète ici un grand merci au Tristram.
Merci beaucoup, Denis. On va écouter votre deuxième pause musicale.
Avez-vous mesuré le temps ? Avez-vous mesuré le vent ? Avez-vous mesuré la nuit, la vie ? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi. Ma peau lorsque je
Viens avec moi, mon vieux pays, d'Émilie Loiseau. Vous êtes toujours dans l'émission Escapadez-vous, donc avec Chloé Velay, donc responsable de la médiathèque Olympe de Gouges à Saint-Hippolyte-du-Fort et responsable de la lecture publique, et Denis Infante pour son roman Rousse ou Les beaux habitants de l'univers. Alors, Denis, comme la première pause musicale, pourquoi ce choix d'Émilie Loiseau?
D'abord, j'aime beaucoup cette chanteuse, sa voix. Sa musique, parce que c'est elle qui compose. Et là, particulièrement, j'ai vu le clip qui m'a beaucoup bouleversé. C'est une manifestation du mouvement des coquelicots. Donc, on voit plein de gens dans une rue de village, il me semble, avec des pancartes, des enfants, des vieux. C'est très touchant. Et c'est très volontaire. Ils sont là, quoi. Ils font pas semblant d'être là.
Alors, Denis Rousse, votre roman « Où les beaux habitants de l'univers ». Donc, Rousse, la renarde. Donc, on a eu en début d'émission la renarde au démarrage de son voyage un peu initiatique, hein, dans un monde où il n'y a quasi plus d'eau, il n'y a plus d'humains, à part des squelettes. Donc, c'est face se plate. On a eu Rousse, donc... avec ses renardos. Et comment est-ce que le roman continue?
Il continue comme le reste, c'est-à-dire elle parcourt toujours ce monde, elle fait encore des rencontres. Notamment, elle va rencontrer ces fameuses aliphantes et elle va apprendre qu'on ne dit pas aliphantes, mais on dit éléphants. C'est des éléphantes, d'ailleurs. Et parmi ces éléphantes, de nouveau, elle va avoir une maîtresse qui sait. Et elle va continuer à apprendre et elle va continuer à voyager jusqu'à arriver au point ultime de son voyage qui est l'océan, parce que je ne peux pas concevoir un roman sans océan. Donc, il a fallu qu'elle arrive à l'océan, eau amère du monde. Et son but à ce moment-là, puisqu'elle ne peut pas aller plus loin, c'est de trouver un autre vivant ou une autre vivante et de lui enseigner ce qu'elle sait pour en faire aussi une maîtresse ou un maître. Voilà. En gros, c'est ça son parcours. Elle est devenue, par la force des choses, elle-même une professeure. Enfin, voilà.
Et oui. Chloé, vous voulez réagir?
Oui,
c'est... Non, j'ai eu l'impression, mais...
Enfin, ça me fait écho, oui, effectivement. La transmission et le voyage, ce sont deux façons qui se rejoignent d'être reliées au monde.
Merci beaucoup, Denis Infante, d'être venu dans nos studios à Radio Escapade, donc pour votre roman « Rousse ou les beaux habitants de l'univers ». Donc, j'imagine, Chloé, que l'on peut trouver ce roman à la médiathèque ici à Saint-Hippolyte-du-Fort, mais
pas
que.
Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que donc, nous sommes un réseau de lecture publique dans le Piémont-Cévenol, voilà, qui propose une offre culturelle de proximité et il y a forcément une bibliothèque pas loin de vous. On a à cœur évidemment de valoriser l'auteur et l'ouvrage chaque année qui reçoit le prix des Cévennes au cœur. Donc vous le trouverez prochainement dans toutes les bibliothèques du réseau. Voilà.
Et bien sûr dans les librairies.
Ah bah oui.
Ça, hein, tout à fait. Au montant de 16,50 €. Internet peut-être aussi?
Non, il n'y a pas de version.
Ok, d'accord. Donc,
il y a d'autres formes qui sont prévues, mais notamment une parution en poche à fin 25 chez Point. Voilà, ça, oui.
Ah, super. Ok, en poche.
Ouais, en poche.
Très bien, ça va faire le tour des collèges et des lycées, je le sens. Les prochains programmes. En tous les cas, merci vraiment à tous les deux d'être venus dans le studio.
Avec grand plaisir.
Merci à vous.
Merci pour votre accueil.
Bonne continuation sur les ondes.
Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.